Émission spéciale sur la grenouille à l'occasion de la 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, un festival qui propose chaque année pendant une douzaine de jours, pendant les vacances de la Toussaint, dans cette petite ville des environs d'Aix-en-Provence, un panorama mondial du cinéma d'auteur à travers des avant-premières, des gros plans, des soirées spéciales, des rencontres et une programmation cinéma junior. Du 21 octobre au 1er novembre 2011, près d'une soixantaine de films seront ainsi projetés dans les trois salles du cinéma Trois Casinos de Gardanne, parmi lesquels Tous au Larzac, le dernier film de Christian Rouault en ouverture du festival. Christian Rouault, réalisateur de Les Lippes, l'imagination au pouvoir, un film passionnant dont on s'était fait l'écho à l'époque sur la grenouille. Également au programme de cette 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, Le Havre de Aki Korismaki qui fera la clôture du festival, Police de Mai Wen ou encore L'Art d'aimer d'Emmanuel Mouret, célèbre réalisateur et séducteur marseillais. Vous entendrez au cours de cette émission spéciale Régine Join, directrice du cinéma 3 Casino de Gardanne et programmatrice de cette 23e édition du festival, Jean-Pierre Daroussin et Jean-Marc Moutou à propos du film De bon matin de Jean-Marc Moutou, Radou Milayanou pour son dernier film La source des femmes et Nadia Elfani, réalisatrice franco-tunisienne de Laïcité Inch'Allah, un film documentaire sur la question de la laïcité dans le nouveau projet de constitution tunisienne. Mais pour commencer, Régine Join commence par nous dire quelques mots sur les phénomènes de concentration en cours aujourd'hui dans le milieu du cinéma et sur les questions que soulève pour les salles de cinéma telles que celles du cinéma 3 Casino de Gardanne, le passage au numérique.
Effectivement, la concentration est de plus en plus forte. Je crois que les circuits veulent faire disparaître les petits cinémas de proximité. La concentration est terrible, le passage au numérique est un vrai danger, mais on est là, hein, on existe. Et nous on va peut-être pouvoir survivre.
Quels sont les impacts, par exemple, sur l'activité de cinéma de Gardanne, de ces concentrations?
Eh bien, simplement l'accès aux films, la raréfaction des copies, le fait que ce qu'on nous avait présenté comme les multiplexes, nous devons présenter que des films commerciaux, grignote de plus en plus ce qu'on appelle l'arrêt essai porteur. Si on n'a plus que les films hyper pointus, ben nous on va plus exister. C'est très compliqué. La menace du numérique, qui est quand même pour pas mal de salles une vraie menace. Il faut savoir que c'est 100 000 euros à peu près d'investissement par salle. Donc pour nous c'est 300 000 euros, hein, juste ça. Nous on peut être aidés, non pas par la ville mais par des mesures nationales, mais c'est très compliqué. Et voilà, les copies se raréfient, la programmation perd de plus en plus de... Le public identifie de moins en moins les salles réellement arrêtées. Surtout pour nous, petites villes, où on fait un travail généraliste. Voilà.
Le passage au numérique, c'est donc une question d'argent, mais qu'est-ce que ça va avoir comme modification dans l'activité des cinémas?
C'est un bouleversement total dont on ne mesure même pas là, pour l'instant, les conséquences de l'activité, hein, puisque nous allons passer à un inversement des rôles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est nous qui payons les films aux distributeurs. Là, c'est eux qui devront payer des contributions numériques. Bon, ce serait très compliqué à vous expliquer là. Mais on ne sait pas du tout où on va. En plus, je vous dis, oui, c'est un problème d'argent quand même. On ne sait pas du tout comment vont se passer les choses. On ne sait pas combien de temps va durer ce matériel. Pour l'instant, on est aidé quand on est une petite salle comme la nôtre. Mais qui nous dit qu'on le saura une deuxième fois quand le matériel sera obsolète? On ne sait pas tout ça. C'est une véritable menace.
Ce passage au numérique, ça veut dire aussi des choses qui vont disparaître. Par exemple, la circulation des copies 35 mm ne va plus exister. Non. Des choses vont arriver d'ordinateur.
Vous savez, là, il y a des films que je n'ai pas pu programmer parce qu'il n'existe pas de 35 mm déjà. On nous avait dit fin 2012 et là, on est fin 2011 et déjà, on a des difficultés. Donc effectivement, oui, il n'y aura plus de circulation, ça va être, c'est un disque dur, puis une clé, et oui, c'est un bouleversement total de la profession.
Est-ce que ça va avoir des gains de qualité pour le spectateur, ce passage numérique?
Je pense, oui, que la qualité, d'après ce qu'on en dit, Est meilleure et plus grande, oui. Puis c'est l'accès à la 3D aussi. C'est une ouverture qui me paraît, quant à moi, disproportionnée quant au coût. Mais voilà, oui, je pense que quand même pour le spectateur, au niveau qualitatif, ça peut être intéressant, mais il va falloir passer quand même un cap très important.
Pour parler plus précisément de cette 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, ben, commençons par l'affiche. Elle est extraite du film Le Havre de Aki Kaurismäki, qui va être présenté en avant-première en clôture du festival. C'est un film, selon de nombreux observateurs du dernier Festival de Cannes, qui aurait pu avoir la Palme d'Or du Festival de Cannes.
Ah ben ça, c'est tout le principe des jurys, hein. Oui, bien entendu. Si vous demandez mon avis, je vais vous dire oui. C'est sûrement le film que j'ai préféré, on va dire, même si d'autres films que je présente aussi m'ont beaucoup plu. C'est un film qui vraiment regroupe toutes les qualités que peut avoir Aki Kaurismäki, qu'on a toujours suivi, pour qui on a fait toute une rétrospective il y a 3-4 ans. On avait ouvert avec L'Homme sans passé. Et là, c'est un film absolument magnifique, même drôle. Drôle à la façon de Kaurismäki, hein, une espèce d'humour, d'une intelligence incroyable, un bonheur de découverte, d'un cinéma magnifique avec toujours ces deux acteurs. Et j'ai eu envie que ces deux visages magnifiques, que cette posture en attente, comme ça on ne sait pas de quoi, surtout quand on ne voit que l'affiche, nous suivent pendant tout le festival et qu'on clôture avec lui. Voilà. Le Havre, c'est vraiment un havre. C'est vraiment un havre de cinéma, un havre de délicatesse, un havre d'intelligence.
Un film dans lequel on trouve aussi Jean-Pierre Darroussin, qui n'est pas sur la photo.
Il est partout, lui.
Et qu'on trouve dans un autre film que la 23e édition du Festival de Gardanne propose, dont on parle pas mal en ce moment, c'est De bon matin.
Bon matin, oui. Ben oui, Jean-Pierre Darroussin fait une vraie carrière, hein. D'ailleurs, c'est une de mes grandes envies, c'est de le rencontrer, de lui faire un hommage, de lui proposer un hommage. On n'a jamais réussi à trouver de bonnes dates, parce qu'il a l'air très occupé, ce garçon. Oui, oui, il est dans au moins deux films, mais c'est vrai qu'il est toujours aussi bien. De bon matin est un très beau film, hein, qui est sorti là, il y a une quinzaine, et que j'ai gardé pour le festival, effectivement, qui lui aussi montre bien ce que peuvent être les difficultés à travailler, à vivre, à prendre des décisions pour les cadres, là, effectivement. Voilà.
Les rendez-vous rituels du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, c'est la soirée Bollywood et la soirée italienne. Ce qui fait la différence d'une édition sur l'autre, c'est les gros plans. Et cette année, c'est sur le cinéma iranien et sur le cinéma d'Amérique du Sud. Le cinéma iranien, on imagine que c'est lié au succès d'Une séparation de Asghar Farhadi.
Partiellement, c'est ça, hein, avec Une séparation. C'est aussi que on a toujours été très, très, très attachés au cinéma iranien. Hein. Moi, j'ai toujours montré ce cinéma-là. Qu'effectivement, le succès d'Une séparation qu'on avait montré à Gardanne en avant-première m'a donné envie de ressortir les deux autres films d'Asghar Farhadi qu'on avait présentés, non pas La fête du feu, mais À propos d'Elie, qui était dans le festival il y a 2-3 ans. Et donc, à cette occasion-là, à cette faveur-là, j'ai trouvé que c'était bien de le présenter à nouveau. Et puis, pour Jafar Panahi, c'est effectivement là aussi, à la faveur de la sortie de Ceci n'est pas un film, de représenter des films qu'on a déjà proposés avant. Le cinéma iranien, et en tout cas, les réalisateurs sont en souffrance. Leurs films sont parfois interdits, sont emprisonnés. Je trouve que c'est important qu'en France, ou en Europe, ou dans tous les pays, il y ait un relais comme ça de leur cinéma. Ce sont des gens qui font preuve d'un grand courage, qui continuent à travailler beaucoup. Et puis en plus, c'est beau, c'est intéressant, c'est passionnant, on est enfermé, on est emporté dans leur histoire, et c'est vraiment du grand art, hein, quand même.
Le cinéma sud-américain, c'est lié à une inventivité particulièrement vivace en ce moment ?
Pareil, hein. Il y en a toujours eu beaucoup dans ma programmation, je crois que j'aime beaucoup ça aussi, mais c'est vrai qu'il y a une envie de diversité chez eux qui est absolument incroyable. Et il y a deux avant-premières quand même. Bon, l'Argentine est bien représentée quand même. Mais on a un film péruvien, Octobre, qui est complètement audacieux, original, enthousiasmant. Donc voilà.
Parmi les soirées spéciales proposées par cette 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, deux soirées sont accompagnées par l'association Attaque.
Oui. Ben voilà, oui. On se connaît un peu quand même sur Gardanne et ils ont souhaité accompagner plusieurs films. Ils seront très présents, mais ils ont choisi Tous au Larzac et ils ont choisi aussi Laïcité Inch'Allah. Le réalisateur vient pour Tousseau Larzac et Nadia Alfani vient aussi pour présenter Laïcité Inch'Allah. Ça leur paraissait important d'être là et de soutenir et de faire connaître ce cinéma.
Tousseau Larzac, c'est le nouveau film de Christian Rouault, Après l'Ellipse.
Après l'Ellipse, voilà, c'est ça. Et c'est un film chaleureux qui n'a rien à voir avec quelque chose qui serait... On revient à nos vieilles guerres, pas du tout. Au contraire, c'est le témoignage des gens qui ont vécu ça, leurs hésitations, leurs doutes, leurs découvertes. Et ça, c'est quand même des échos absolument immenses sur les propres luttes actuelles de résistance et d'envie de se battre.
Et Laïcité Inch'Allah ?
Ben, c'est un film, c'est une franco-tunisienne qui fait ça, Nadia Alfani, sur les événements de Tunisie récents. Et là, le 22, il y a les élections en Tunisie. Je ne la connais pas, moi, elle. J'ai été très, très heureuse de pouvoir la contacter. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, parce que c'est peut-être la petite histoire, mais quand même, d'abord, son film est très courageux. Elle a été menacée, il est interdit. Elle s'est heurtée quand même à des opinions politiques dures dans son pays. Et elle est très malade, en plus. Donc on espère qu'elle arrivera jusqu'à nous. Elle ne sait jamais, du jour au lendemain, ce qui peut lui arriver. Mais elle veut continuer à proposer son film et à être partout dans les salles. Donc évidemment, là aussi, je la soutiens et j'espère qu'elle pourra venir jusqu'à nous.
Ce sont des films avec des productions modestes, on va dire. Hein.
Quoique Tousseau Larzac sort sur quand même une bonne... pas mal de copies.
Il y a des films à la production plus conséquente, et notamment il y a le nouveau film de Radu Mihaleanu qui avait fait un tabac avec le concert et qui là propose son nouveau film, là. Donc une avant-première.
Oui, c'est beau, c'est particulier là aussi, une forme je dirais un peu péplum presque. Je l'ai vu à Cannes, il a été remonté depuis, il est plus court. En tout cas le sujet m'a beaucoup intéressée sur ces femmes qui se battent, ça nous rappelle un autre film qui vient de sortir. Comme est maintenant on va où, hein, toutes ces problématiques de ces femmes qui se battent. Moi, je le recommande beaucoup.
Est-ce que tu peux nous dire un mot des réalisateurs qui seront présents pendant... Alors, on a parlé de Christian Rouault tout à l'heure, de Nadia Alfani, mais qui seront les autres...
Jean-Jacques Geoffrey, pour venir présenter Après le Sud. Hein, c'est un premier film. Il y aura Emmanuel Millet pour La Brindille, qui est un film, à mon avis, qui a été peu vu, mal proposé, mal présenté, qui est... C'est un premier film aussi, de quelqu'un très engagé aussi, sur un sujet quand même un peu compliqué, qui est l'accouchement sous X. Et donc, c'est un très beau film, avec de beaux débats, je pense. Il y aura Emmanuel Mouret pour un film en avant-première.
Emmanuel Mouret, qui s'appelle L'Art d'aimer, semble rester toujours dans son registre.
Absolument, ça a l'air d'être ça. Et là, on va carrément sur L'Art d'aimer, qui est quand même Ovide. C'est très, très beau. Et bien, c'est drôle. Et on a Roland Côté aussi, qui est un prof en fait de photographie, qui a tourné un film, alors là présenté en DVD, qui est en fait sur l'harmonie de l'Estac, où une dame, une diva arménienne a créé une chorale d'enfants qui chante Verdi d'une manière absolument époustouflante. Il est venu avec son film, l'a proposé. Et là, je pense qu'on va avoir la chorale dans la salle. Peut-être pas qu'il va chanter, hein, mais voilà. Ça me paraît être une soirée extrêmement intéressante. Ça s'appelle « De Yerevan à l'Estac ». C'est beau, le film est intéressant et le personnage de Guy Hanné est absolument magnifique. J'ai eu envie de le proposer aussi.
Pour terminer par là où on avait commencé, le passage au numérique pour le cinéma de Gardanne, Trois Casinos, ça va se faire dans l'année là, qui vient ?
Oui, normalement, décembre-janvier.
Sur les trois salles ?
J'espère. Mon dossier est à l'étude. Si vous voulez, là où c'est compliqué, c'est que le cinéma avait besoin de beaucoup de travaux. Donc les travaux ont eu lieu depuis début août. On est dans le chantier. C'est en train de se terminer là, même pas une semaine. C'est tout l'extérieur. Alors c'est intéressant, mais c'est tout le toit, toute l'isolation thermique, la sécurité incendie. On nous repeint toute la façade. C'est encore en train de se faire. Je ne me suis pas vue de lancer un autre chantier d'installation, de remise à l'état. J'aurais bien aimé tout faire pour le festival, ce sera pour l'an prochain, tout fait.
C'était Régine Join, responsable de la programmation de la 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, qui se déroule du 21 octobre au 1er novembre 2011 au cinéma Trois Casinos de Gardanne. Une 23e édition à laquelle cette émission spéciale est consacrée. Après la pause musicale, Jean-Pierre Daroussin et Jean-Marc Moutou nous diront quelques mots de leur film De Bon Matin.
Je me suis totalement investi dans mon métier. J'y ai mis le meilleur de moi-même. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, vous ne valez plus rien.
De Bon Matin et après Violence des échanges en milieu tempéré, le dernier film de Jean-Marc Moutou. Un nouveau film sur la violence au travail, donc, dans lequel Jean-Pierre Daroussin incarne un chargé d'affaires dans une banque qui, poussé à bout par les nouvelles méthodes de management de sa hiérarchie, assassinera deux personnes avant de se suicider. Un film inspiré d'un fait divers qui s'est déroulé en 2004 en Suisse. Jean-Marc Moutou et Jean-Pierre Daroussin ont bien voulu répondre à quelques questions sur ce film.
Voilà, là on touche du vent, et voilà, tu restes au 90.
Paul, je vois que tu tiens pas tes objectifs. Tu fais 10% de moins que la moyenne de tes collègues. Comment tu expliques ça?
Je venais juste, ça fait 6 mois que Violence des échanges est sorti. Et je voulais. Enfin, j'ai déjà un autre projet, je voulais pas. Je pensais même pas m'intéresser au monde du travail à nouveau. Mais l'histoire de cet homme m'a hanté longtemps et il a fallu que je m'en approche et essaye de voir comment un homme dit normal ou sain de corps et d'esprit pouvait basculer dans ce type de geste. Mais je n'ai pas cherché à me documenter, à déranger la famille ou quoi. Je voulais pas être prisonnier de toute façon de l'événement et de ce qui s'était passé. Je voulais parler d'un homme qui pouvait faire ce type d'acte. Et donc, c'est la fiction et c'était ça, c'était à lui avant tout, quoi. Mais peut-être que je voulais le réfléchir, quoi. Donc le projet, tout de suite, il y a eu plusieurs années entre l'information et le moment où je me suis lancé dans l'écriture. Quand je me suis lancé dans l'écriture, j'ai tout de suite, je pense qu'il était resté l'idée que de commencer par le meurtre. Peut-être que j'ai entendu l'information finalement. Quelqu'un qui fait ça, c'est qui? Donc d'ouvrir par le meurtre et que ce type s'enferme et qu'on soit avec lui dans les derniers instants de sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme au moment où il sait qu'il va en finir? Et donc dans ces derniers instants, être dans son état d'esprit, dans son émotion, dans son état, à la fois chaotique, à quoi il pense, et à la fois, il fallait quand même m'expliquer où le parcours qui l'amenait à ça, quoi. Jouer là-dessus. Voilà, c'était ça qui me donnait envie.
Mais vous êtes documenté de façon précise.
Et je me suis documenté avec les banquiers. J'ai choisi un métier qui était se charger d'affaires, qui je pense n'était pas du tout le cas, ce qui n'était pas le cas de l'équipe qui a fait ça en Suisse. Le parcours de ce qui arrive en termes de conflits, c'est des bribes, de choses. Tout a eu lieu pour différentes personnes et voilà, j'en ai fait un parcours, quoi. Avec les fausses réunions, évidemment les objectifs, hein, enlever une partie du portefeuille, enfin tous les événements ont existé chez, parfois dans la banque, parfois pas dans la banque. Bon, on est chargé d'affaires, donc déjà ils m'expliquaient leur boulot, leur pression, puisque ils prennent beaucoup de risques en fait, c'est des gros montants, hein, des gros prêts, c'est sur les entreprises ou aux collectivités. Donc ils ont à la fois cette responsabilité, cette fierté d'être les poumons économiques des régions, et à la fois cette énorme pression du risque et du contrôle permanent, à la fois d'avoir donc de faire des chiffres, mais que ces chiffres soient rentables, de prêter, mais de façon rentable. Donc ils sont un peu plus, franchement, bon, beaucoup, quoi. Je me souviens à Annecy, pour le coup, un directeur des chargés d'affaires de la Caisse d'épargne d'Annecy, il n'avait plus d'ombre. Ouais. Voilà. Bon, ceci dit, la banque est un... Voilà, j'ai gardé les banques, je pense que ça n'est pas exclusif à la banque. Elle représente bien le management, les pressions, l'espèce de mondialisation et de déshumanisation des rapports au travail, mais alors, voilà, elle est un très bon exemple, elle n'est pas... On n'a pas l'exclusivité, malheureusement.
Et vous, Jean-Pierre Darroussin, comment vous avez abordé ce personnage? Est-ce que, comme Jean-Marc Moutou, vous êtes documenté un peu sur ce milieu-là? Comment vous y êtes pris?
Bon, je ne connaissais pas avec Jean-Marc. Moi, je connaissais son cinéma, mais lui m'avait déjà vu jouer. Mais en dehors de ça, on ne s'était jamais rencontré. On a eu une approche assez simple. Je pense qu'ils se demandaient un petit peu comment j'allais aborder ça, comment j'allais travailler. On a discuté.
On s'est rencontrés très tôt, parce que dès qu'il y a une version un peu correcte du scénario, je l'ai proposé. Voilà, on voyage avec Pierre, et avec l'idée d'éventuellement tourner à la fin de l'été. On a dû lui envoyer en mars ou en janvier, début d'année, et Jean-Pierre était au théâtre. De toute façon, on n'avait pas un sou sur le film, mais. Donc à partir du moment où on ne pouvait pas tourner cet été-là, on a décidé de tourner en juin, en début de l'été suivant. Ça nous a permis à la fois de réécrire, de faire le financement, et voilà. Donc on a eu le temps, voilà, on ne s'est pas vu tous les jours pendant un an, mais oui, donc il y a eu différentes versions de scénario.
Oui, de se connaître, de manger ensemble le midi, de déjeuner, enfin voilà, de parler de choses et d'autres.
Et du
donc,
film.
Et du film, et donc d'avoir une approche assez tranquille. Jean-Marc m'a fait lire des enquêtes sur des personnages à qui c'était qui avaient été acculés à des suicides en entreprise, chez Renault ou chez Orange. Et j'ai donc lu j'ai lu ça. Voilà, c'est à peu près la façon dont je me suis documenté, mais ça reste quand même assez indicatif. Après, il faut quand même il faut sentir comment la tension, comment peut naître la révolte à l'intérieur de quelqu'un qui a l'air d'être en adéquation avec le système. Et comment quelqu'un peut s'indigner suffisamment et profondément et être tendu vers une sorte de règlement de compte quasi terroriste par rapport à une certaine idée du bien. Voilà. Ce qui correspond assez à ma façon de fonctionner. Je m'aperçois que finalement, c'est la chose qui me guide un peu dans ce que je fais, c'est une certaine idée du bien. Mais il me semble que le metteur en scène, souvent aussi, c'est un peu ça. Finalement, les gens font. On a une idée de ce qu'il faudrait, d'une certaine morale. On l'impose pas forcément, heureusement, parfois. Mais en tous les cas, on a parfois envie de la communiquer aux autres, envie de dire Voilà, moi, c'est bien, ça serait bien si c'était comme ça. C'est un peu ça le sens de faire du cinéma, finalement. Et ben, ce personnage-là, il a ça, il a une certaine idée du bien, il sent que cette idée, elle est trahie, et voilà, il a une révolte fougueuse qui naît en lui.
C'est un regard très noir sur la société.
Oui, s'approcher de ce type de situation, d'essayer de comprendre, d'approcher un homme qui arrive à cette extrémité-là, oui, c'est forcément sombre, mais c'est fait pour éclairer, j'espère, pour pas tomber dans ce type d'extrémité, pour y réfléchir. C'est pas un film définitif, qui est une vision définitive de la société, vous voyez ce que je veux dire. Ça propose un regard d'un moment, d'une situation, et voilà. Faut mettre en perspective et pas. Là, c'est pas... Non, mais c'est vrai que c'est sûrement le versant le plus noir de ce qui arrive aujourd'hui, mais c'est hélas très très répandu, et voire trop répandu. Et maintenant que le film existe, j'entends, on continue, on m'approche maintenant avec des révélations assez à ça. Il y a 10 jours à Montreuil, il y a un type qui vient me voir à la fin du débat et qui me dit bonjour. Je suis un petit bien, plutôt enfant, ben, parlons bien, pas du tout abîmé, enfin, très bien. Et qui me dit, je travaille au ministère des Finances, à Bercy. Et me dire qu'il y a, on n'en parle pas beaucoup, pas du tout, mais il y a 30 suicides par an dans l'enceinte de Bercy. 30 suicides par an dans l'enceinte de Bercy. Et il me dit, il n'y a qu'un journal qu'on a parlé, c'est le Parisien, pendant l'été, en juillet. Cherchez, c'est un article du 26 juin. Moment où le délégué FO en est tellement marre de rien pouvoir faire qu'il a lui-même avalé des barbituriques, enfin des médocs, et fait sa propre tentative de suicide. À ce moment-là, ça a alerté les. Mais, voilà.
Et le suicide, vous avez choisi de le filmer frontalement.
Oui. Bah, tout le film tend à ça, donc on le sait, et je pouvais pas l'éviter, ça n'avait pas de sens de le faire off, il fallait l'amorcer, donc on refait une boucle, on prépare la lettre, on sait que le moment arrive. Et c'est le geste, donc cet homme, voilà, je suis dans la réalité de l'homme qui décide de ce geste, et il faut le montrer réellement, avec sa brutalité, sa cruauté, et pas s'entir, voilà, c'est bref, ça ne dure pas beaucoup de temps.
J'ai commencé en 83, dans une petite agence, c'était la grande époque pour les banques. Ça te plaît le droit?
Ça va.
Toujours branché journalisme?
Ouais.
Tu as envie de quelque chose, c'est ça le plus important.
Le point crucial est de rassurer nos clients.
Concrètement, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'on a acheté des subprimes sans le savoir?
Voilà, là on touche du vent. Et voilà, tu restes au 90.
Paul, je vois que tu tiens pas tes objectifs. Tu fais 10% de moins que la moyenne de tes collègues. Comment tu expliques ça? On te propose le poste qui se libère.
C'est une plaisanterie.
Ça n'aura aucune incidence sur ton salaire. On n'a pas le droit.
Je croyais qu'il t'avait dans le nez, mais je me plantais. Hein.
Attends, faut pas croire ça. C'est exactement ce que veut ce type.
On va se battre ensemble.
Ça serait bien que tu demandes ta mutation.
Alors ça, jamais de la vie.
Pourtant, c'est la meilleure chose qui te reste à faire, hein, parce que vu où on est arrivé...
Ne parlez pas comme ça.
Écoute, maintenant, tu te casses et c'est bon, hein.
Je ne sais pas quand ça a commencé. Quand ça a dérapé.
Également dans la programmation de la 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, en avant-première, le dernier film de Radu Mihaleanu, La source des femmes. Un film qui sortira en salle le 2 novembre prochain. 11 semaines de tournage dans un village du Maroc, avec notamment les actrices Leila Bakhti, Afsia Herzi et Biouna, pour raconter une grève du sexe de la part d'un groupe de femmes décidées à faire cesser une tradition villageoise qui les oblige à aller chercher à une source dans des conditions périlleuses en montagne l'eau pour le village. Radu Mihaleanu est le réalisateur du film Le Concert, film qui avait connu un succès public considérable. Il nous a dit quelques mots sur ce nouveau film, La source des femmes.
c'est parti d'abord par des belles rencontres que j'ai fait au pays du Maghreb et surtout au Maroc, avec des femmes extraordinaires qui me racontaient souvent des histoires douloureuses, mais toujours avec une joie de vivre où elles s'apitoyaient absolument pas sur leur sort. Énormément d'humour, énormément de poésie. J'ai découvert un langage très poétique pour des femmes qui effectivement n'avaient peut-être pas accès à l'éducation, mais elles avaient accès à un savoir ancestral qui était très riche et que peut-être nous ici en Occident on a un peu perdu. Donc j'ai été ébloui par cette beauté-là et cette complexité richesse à une époque où en France, et comme je me balade un peu partout dans le monde occidental en tout cas, on dénigrait beaucoup et on continue en partie cette communauté arabe et la communauté musulmane par des raccourcis, par des méconnaissances et par de manque de complexité. Et je m'étais fait le projet de les raconter, même si je voulais raconter aussi les injustices. Et là-dessus, je tombe sur un fait divers qui s'est déroulé en Turquie en 2001, effectivement, dans un petit village où des femmes du village qui allaient chercher l'eau en haut de la montagne depuis la nuit des temps et qui se faisaient mal, surtout en descendant avec l'eau, ont déclenché une grève de l'amour. Toutes les femmes du village, il y a eu deux articles dans Libération et dans Elle. Dans Elle, il y a même une photo. Et ça m'avait paru tellement énorme et tellement à la fois drôle et fictif, alors que c'était de la réalité. Je me suis dit heureusement que ça existe, parce que sinon on m'accuserait que c'est un cliché et que ça ne peut pas exister. Et il y avait tous les éléments qui parlaient et du spécifique et de l'universel. Ça parlait tellement de la question de l'amour, en fait, puisque ces femmes demandent de l'attention, demandent une compréhension de leur vie intimement subjective, donc de l'attention, donc de l'amour. Ça pose la question de l'amour aujourd'hui au 21e siècle, un peu partout. Qu'est-ce que c'est aimer? Qu'est-ce que c'est voir l'autre? Qu'est-ce que c'est comprendre le besoin et la souffrance de l'autre? Et après, l'eau, dans tout son éventail de métaphores, cycle de vie, élément vital, et aussi énergie peut-être malheureusement, qui sera absente et ultra nécessaire à l'avenir et qui pourra déclencher peut-être des conflits. Et donc voilà, et depuis je me réjouis d'apprendre qu'il y a eu plein d'autres grèves de l'amour aux quatre coins du monde. Il y a eu il y a 2 ans en Colombie pour que le cartel de la drogue arrête de s'entretuer. Il y a eu à 2 semaines et demie aux Philippines pour que la guerre au sud du pays cesse. Et il y a eu la semaine dernière un prix Nobel de la paix, une femme exceptionnelle. Il y en a eu 3, mais parmi les 3, il y en a une qu'il faut en parler beaucoup, parce que je me rends compte de plus en plus j'en parle, que c'est historique et que c'est exceptionnel. Donc à la fin de la guerre au Libéria, Charles Taylor déclenche un scrutin et il ne veut pas donner le droit de vote aux femmes dans le scrutin. Et il y a 7 femmes qui est prix Nobel de la paix qui appellent toutes ses concitoyennes, femmes, à faire la grève du sexe tant qu'elles n'obtiennent pas le droit au scrutin. Et elle obtient le droit au scrutin. Et Charles Taylor tombe et une femme est nommée présidente grâce à ça. Et on ne l'a pas assez dit. C'est-à-dire, moi, je ne le savais pas avant de relire là, grâce au prix Nobel de la paix. Donc, comme quoi, c'est drôle parce qu'on a fait un film, mais comme quoi la femme peut obtenir des droits très importants et que la société change socialement et politiquement à travers cette bombe atomique non violente du pauvre qui est la grève du sexe.
Sur ce thème-là, on aurait pu imaginer un film social. Vous avez choisi la forme du conte. Pourquoi? Vous pensez que ça va avoir plus d'impact?
Pour 2 raisons. 1, c'est la forme narrative qui est très culturelle, orientale. C'est-à-dire les orientaux, et moi je me rappelle quand j'étais petit, j'écoutais des histoires et ma maman me racontait des histoires. Il était une fois un sultan ou à la cour d'un sultan où il y avait toujours des histoires formidables qui venaient d'Orient, et Les Mille et Une Nuits qui est le conte le plus connu et qui est très révélateur aussi, même si je ne l'ai pas trop développé dans le film. Les Mille et Une Nuits, une femme survit par l'expression, donc par l'éducation quelque part, sinon on la tue. Si elle cesse de raconter des histoires, le sultan va la tuer. Donc c'est formidable. Donc je voulais rester d'une part dans la culture, d'où la langue aussi. J'ai tenu absolument que ça soit fait en langue arabe et pas du tout en français. Alors qu'on aurait pu, parce qu'on m'aurait dit, mais il y a plein de pays du Maghreb, on parle le français, fais-le, vas-y. Et je ne voulais pas, et je voulais raconter à leur manière, à travers le conte oriental, même si après on a des repères. Effectivement, on sait que ça se passe plutôt aujourd'hui. Il y a le téléphone portable, il y a la télévision avec les séries mexicaines. Et que ça se passe, oui, quelque part au Maghreb. On pourrait, mais je ne voulais pas situer dans un pays, même s'il y a le Darija, qui est le dialectal marocain. Parce que ça, je ne voulais pas tomber dans un autre piège, faire un film à l'américaine sur les Arabes, où on croit qu'il n'y a qu'une langue arabe, alors qu'il y en a plein. Donc je voulais faire une unité de langue, même si je ne situe pas au niveau du pays. Mais je ne voulais pas situer au niveau du pays non plus, pour qu'il n'y ait pas les autres qui disent « Ah, bah, ça se passe comme ça chez eux, et chez nous tout va bien, c'est nickel », ou que les autres se sentent humiliés et visés plus que d'autres. Ou... Parce qu'à la fois, comme tous les contes orientaux, c'est spécifique, mais c'est universel. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les femmes, ici, chez nous, aient beaucoup plus de droits, ou beaucoup plus d'attention. C'est-à-dire, après, si on réfléchit, en tout cas j'espère, qu'on prenne ce recul-là, qu'on se dise, mais ici, oui, la femme, elle a le droit de travailler, elle a le droit à l'éducation, mais elle est moins payée, elle part le matin, les enfants sont habillés, sont envoyés à l'école, elle travaille, elle rentre, elle fait les courses, elle fait la cuisine, elle s'occupe des enfants, et elle se couche KO, et le lendemain, elle se réveille pour refaire. Donc, c'est différent, mais c'est quand même pas l'égalité non plus.
Allô, Nassim, le Bezalik. Allô, 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 Rizo. L'ahmar, dour ou la radim, l'ahmar, t'as beaucoup de soc. Yallah.
الشقة في الدار والشقة معدود للعيالات هاد الشيء علاش حنا اللي كنمشيو نجيبوا الماء هذه هي عادتنا من زمان
رجال خصهم يجيبوا الماء البلاد كاين دواء ولي داروا هاد الشيء
علاش ما بقاوش باغيه تسقيو من العوينه هذه ما تكون غير الحراره طلعت اليوم سخانه للراس
كيفاش غادي تقلع Je veux qu'on revienne à des choses terre à terre la religion est-ce que nous voulons qu'elle gère nos vies ou est-ce que nous voulons que nous soyons libres
l'islamisme
Une fois de plus, je veux filmer la société, filmer la résistance invisible de ceux qui, comme moi, tentent de vivre en dehors d'une religion imposée.
Vous écoutez La Grenouille, c'est une émission spéciale consacrée à la 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne qui se déroule à Gardanne du 21 octobre au 1er novembre 2011 au cinéma Trois Casinos. Nadia Elfani est franco-tunisienne. Son film Laïcité Inch'Allah sera présenté dans le cadre de cette 23e édition du festival lors d'une soirée spéciale en présence de représentants de l'association ATTAC le mardi 25 octobre à 19h. Laïcité Inch'Allah est un film qui milite pour inscrire la laïcité comme principe dans la nouvelle constitution tunisienne. Un film qui dénonce la mainmise de la religion musulmane sur la vie quotidienne des Tunisiens, quels qu'ils soient, et la grande hypocrisie sociale qui en découle.
Il me semble que l'enjeu majeur des élections va être quel projet de société nous avons pour la Tunisie. Nous voulons une société où la religion sera séparée de l'État.
Pour commencer, Nadia Elfani, est-ce que vous pouvez nous parler de vos deux précédents films ?
Le premier long, c'était une fiction qui s'appelait Bedouin à cœur et qui était un peu prémonitoire parce que c'était l'histoire d'une hacker tunisienne qui se servait d'Internet pour revendiquer une liberté. Évidemment, pas sur la Tunisie parce que c'était pas possible de faire des choses frontalement, mais c'était quand même une parabole sur la liberté, ouais. Et je disais déjà à l'époque, dans les interviews, que je pensais que la contestation viendrait d'Internet.
C'est en quelle année ?
J'ai tourné le film en 2001, il est sorti en 2003. Et voilà, par la suite, j'ai fait d'autres courts-métrages, et puis j'ai fait un deuxième long-métrage, on va dire, mais documentaire, qui s'appelle Ouled Lénine, ça veut dire les enfants de Lénine, qui est autour de mon père, qui était l'un des dirigeants du Parti communiste tunisien. Et puis voilà, celui-là, c'est le troisième qui est un documentaire aussi. Parce que finalement, je trouve que c'est bien les documentaires.
Et là, quel a été le point de départ? Parce que le film commence en août 2010, c'est pas un film qui a démarré au moment des révolutions du printemps arabe, quoi.
Ben non, j'ai eu de la chance, j'ai senti que, enfin, je suis partie sur un sujet qui s'est retrouvé au moment des révolutions, c'est-à-dire que je suis partie interroger la société sur son rapport à la religion, et parce qu'on était nombreux parmi les démocrates à penser que réclamer la laïcité, c'était un moyen de réclamer la démocratie sous Ben Ali, parce qu'il faut savoir que à la fin de Ben Ali, quand même, tout était hyper verrouillé, hyper fermé, et qu'on pouvait vraiment plus rien revendiquer, quoi. Donc tout était devenu dangereux sous Ben Ali. Donc voilà, c'était un moyen de le contrer par rapport à son double langage sur la religion, prétendant que il combattait les islamistes, et en même temps, c'est pas vrai, parce qu'il leur donnait des gages en permanence, quoi. Donc je suis parti tourner ça, et j'ai menti sur le sujet du film, et puis après j'étais en plein montage quand la révolution a éclaté, et là les premiers débats qui ont commencé à avoir lieu sur la laïcité, je me suis dit qu'il fallait absolument que je retourne à Tunis et que je monte mon film autrement, et j'ai fait un autre film, quoi. La religion, de toute façon, les religions, elles conduisent à l'hypocrisie sociale, dans la mesure où, quand on veut imposer une pratique religieuse à tout un peuple, on conduit ce peuple à devenir hypocrite, parce que on lui dit, voilà, tu es musulman et tu dois faire comme ça. Et quand il n'a pas envie de le faire, bah, de toute façon, il ne va pas le faire, mais il ne va pas le faire en cachette. Et en plus, c'est écrit dans le Coran, si vous désobéissez, cachez-vous. Donc, tout est prévu, etc. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, la maturité d'un peuple, c'est de dire, on doit accepter que même dans la religion musulmane, il y a des gens qui ne sont pas pratiquants, et que ces gens-là, ils ont le droit de ne pas pratiquer aux yeux et au-dessus de tout le monde, et que ce n'est pas un manque de respect pour qui que ce soit que de ne pas pratiquer la religion, et encore moins ceux qui voudraient changer de religion, ou encore moins ceux qui ne sont pas de cette religion et ne la pratiquent pas, et encore moins ceux qui, comme moi, se déclarent athées, ce qu'on me refuse de déclarer aujourd'hui en Tunisie, enfin, du côté des intégristes. Je pense qu'en tout cas, c'est pas difficile d'expliquer aux Tunisiens de séparer la religion et l'État. Maintenant, dès qu'on leur prononce le mot laïcité, c'est plus compliqué, parce que pour eux, laïcité, c'est français, laïcité, ça veut dire athéisme, des choses comme ça. Donc il y a toute une pédagogie qui n'a pas été faite, et que malheureusement, les partis politiques aujourd'hui qui se présentent aux élections n'ont pas l'intention de faire, parce qu'ils ont peur de perdre des voix en réclamant la laïcité. Et moi, je trouve que c'est très dommage que la gauche ne se positionne pas par rapport à ça en Tunisie, mais malheureusement, les hommes politiques n'ont jamais brillé par leur courage. Donc voilà, moi j'ai bon espoir qu'on inscrive dans l'article 1 de la Constitution tunisienne la liberté de conscience, et non pas la Tunisie est musulmane. Pour moi, ça serait déjà une grande victoire.
On a suivi les événements en Libye. En Libye, il semble que ça ne prenne pas du tout ce chemin-là.
Ben, faut demander à Sarkozy pourquoi il a voulu aider ces rebelles-là. Pourquoi c'est ceux-là à qui il a donné de l'argent. On sait très bien que les renseignements extérieurs sont tout à fait au point et savaient très bien qui étaient ces rebelles. Mais pourquoi on ne dit pas aujourd'hui au peuple français qu'on retrouve déjà des armes qui ont été livrées aux rebelles libyens en Algérie, chez les islamistes algériens? Aujourd'hui, à la frontière tunisienne, enfin pas aujourd'hui, il y a quelques jours, on a arrêté, il y a eu une bataille avec l'armée tunisienne qui a arrêté des véhicules 4x4 équipés de missiles anti-aériens. C'était des missiles qui avaient été donnés aux rebelles libyens, hein, et qui passent par la Tunisie pour aller en Algérie. C'est très très grave ce qui est en train de se passer. Donc on savait très bien qu'on était en train de jouer avec le feu. Mais comme les Américains savaient très bien qu'ils jouaient avec le feu au moment de Ben Laden, etc. Et on dirait que l'histoire, elle se répète et que ça ne les dérange pas. Et je pense que ça ne les dérange pas qu'il y ait la charia en Libye. De toute façon, c'était à peu près ça ce qu'il y avait. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Hein. Je veux dire, le petit livre vert de Gaddafi, il n'y avait pas d'alcool, pas aucune loi en faveur des femmes, pas d'école obligatoire pour les femmes, etc. Enfin, je veux dire, on n'est pas loin. Hein. Mais je veux dire, imaginer que les rebelles libyens sont mieux que Gaddafi, d'ailleurs, ils sont aidés par beaucoup de numéros 2, 3, 4 de l'ancien régime. Hein. Donc franchement, moi je suis pas du tout surprise, j'ai pas arrêté de le dire, ça fait 6 mois que je dis attention, en Libye c'est des islamistes, voilà, ça va être des islamistes. Mais en Syrie c'est pareil, la contestation elle est islamiste, hein. Mais je veux dire aujourd'hui en Égypte elle a été aussi majoritairement islamiste.
Il n'y a que la Tunisie qui échappe alors ?
La Tunisie échappe pas, il y a des islamistes en Tunisie bien sûr, mais au moment de la révolution non, oui c'est vrai. C'est vrai qu'au moment de la révolution il n'y a eu aucun slogan islamiste.
Ouais,
nulle part.
Ici,
incroyable. C'était incroyable. Ça a été repris par les syndicalistes, il y avait les avocats, il y avait les... Tout le monde s'y est mis, les médecins, les journalistes, les artistes, etc. Puis à la fin, il y avait tout le monde. Mais on voyait bien les slogans. D'abord, ils prenaient soin de les écrire en anglais, en français, etc. Pardon. Et les islamistes ont récupéré la mise, ont essayé de récupérer la mise après la révolution. Mais les patelins d'où sont sorties les premières révoltes, comme Sidi Bouzid et Gasserine, quand les islamistes ont essayé d'aller y faire leur marché, ils les ont renvoyés. Hein. Et il y a plein d'endroits en Tunisie où les islamistes ont été empêchés de tenir leur meeting. Donc ils n'ont pas une majorité écrasante en Tunisie. Mais ça s'explique par l'histoire de la Tunisie. Quand je dis que la Tunisie a eu l'habitude d'avoir des pratiques laïques, c'est une réalité. Puis il y a une grande middle class en Tunisie. Donc eux, ils font plutôt leur course dans les milieux ultra populaires, là où il y a beaucoup de misère. Ils donnent du soutien scolaire gratuit, donnent des médicaments gratuitement. Ils font plein de choses. Là, pour leur meeting, ils organisent les transports. Ils ont organisé des mariages collectifs. Pendant le ramadan, ils ont donné des repas. Voilà, c'est comme ça qu'ils achètent leur voix. Hein, mais c'est des méthodes de l'ancien régime aussi, hein. c'est la même chose, c'est-à-dire c'est pas des programmes politiques pour l'instant. En même temps, ils prétendent qu'ils sont modérés, qu'ils ne changeront pas le code du statut personnel. Le programme qu'ils viennent de présenter est étonnamment progressiste, mais moi je le dis, hein, et Dieu sait que je suis contre les islamistes, étonnamment progressiste. Et voilà, mais en même temps, moi j'oublie pas que ce sont des islamistes, comme quand Ben Ali a pris le pouvoir, moi j'oubliais pas que c'était un général.
Vous avez projeté votre film en Tunisie ?
Oui, il y a eu 2 projections en Tunisie, ouais. Ouais. Ben, la première projection s'est très bien passée, c'était à la clôture de Dock à Tunis, il y avait une salle de 600 personnes, le film à l'époque s'appelait encore « Ni Allah ni Maître ».
Ni Allah ni Maître.
Ouais, c'était son premier titre. Et il y a eu un débat très intéressant, même si on n'était pas tous d'accord, mais vraiment c'était très intéressant. Et par la suite, j'ai donné une interview à une chaîne de télé sur Hannibal TV où je répète ce que je dis dans le film, que je suis athée, que entre les islamistes et moi, c'est la guerre, etc. Et eux, ils ont remonté qu'une minute d'un reportage qui faisait 12 minutes et en assénant des contre-vérités sur le film, en disant que j'insulte les musulmans, que j'insulte l'islam, alors que mon film est au contraire un appel à vivre ensemble et... voilà, et à se respecter les uns les autres, et bien sûr à cesser l'hypocrisie. Mais eux, apparemment, ils aiment bien l'hypocrisie. Hein. Et puis, moi, je leur dis aujourd'hui, je ne sais pas qui est le plus patriote, celle qui aime tellement son pays qu'elle fait un film pour raconter comment les Tunisiens s'entendent bien et tout va bien finalement sous le soleil, ou ceux qui cassent des cinémas pour essayer de m'empêcher de faire des films. Je sais pas qui est plus patriote, j'aimerais bien savoir.
Quel est le cinéma ?
Le 26 juin, il y a une deuxième projection du film et, qui était pour soutenir la liberté des créateurs. Et il y avait une projection du film et il y a des salafistes qui sont venus et qui ont cassé le cinéma. La police a mis 30 minutes à intervenir alors que le ministère de l'Intérieur était à 20 mètres. Et voilà, il s'est passé des choses comme ça. Et après, maintenant, j'ai des plaintes contre moi de la part d'islamistes. Qui m'attaque au pénal avec 3 chefs d'inculpation pour atteinte au sacré, atteinte aux bonnes mœurs et atteinte à un précepte religieux.
C'est bien parce que ça va faire débat dans la société tunisienne, ça va vous donner l'occasion de vous faire entendre plus fortement ou
S'il y avait un relais avec mon film, ça serait génial, parce qu'il y a eu ce débat. C'est, au moment où ils ont cassé le cinéma, c'est devenu une affaire nationale et toute la Tunisie, je crois qu'il n'y a pas une personne aujourd'hui en Tunisie qui n'a pas entendu parler de moi et de mon film, donc c'est un peu bizarre comme façon d'être connu, mais ils ont organisé des manifestations contre moi, etc., etc. Mais je ne suis pas la seule attaquée, hein. Il y a d'autres artistes attaqués aussi en Tunisie. Et voilà, donc, mais malheureusement, il y a un débat sur des fausses informations, c'est-à-dire avec des islamistes qui prétendent que j'insulte l'islam et que j'insulte les musulmans et que mon film est anti-religieux, etc. Donc moi, je réclame depuis le mois de juin, mais ce n'est pas suivi des faits, que mon film passe à la télévision tunisienne pour que les Tunisiens puissent se faire une idée tout seuls.
Comment vous avez envisagé votre rôle, vous, dans cette révolution tunisienne ?
Ben moi, je suis cinéaste, hein, je fais des films et je vais continuer à en faire. Ce que je voudrais maintenant... Je vais me battre là jusqu'aux élections pour que le film soit diffusé, quitte à ce qu'il soit diffusé en DVD ou en streaming que sur la Tunisie. Ça, c'est quelque chose à laquelle je travaille là ces jours-ci. Hein. Donc j'espère y arriver d'ici la semaine prochaine pour que le film puisse être vu gratuitement et de façon libre sur le territoire tunisien par les Tunisiens.
Non, c'est pas grave parce que les gens doivent s'exprimer, comme ça on les identifie et on doit s'organiser. Oui.
C'était Nadia Elfani. Son film Laïcité Inch'Allah sera projeté au cinéma 3 Casino de Gardanne le mardi 25 octobre à 19h en sa présence et en présence de militants de l'association Attaque. Cette émission spéciale consacrée à la 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne arrive à son terme. Vous avez pu y entendre les réalisateurs Nadia Elfani, Radou Mia Léanou et Jean-Marc Moutou, l'acteur Jean-Pierre Daroussin et Régine Join, directrice du cinéma 3 Casino de Gardanne, responsable de la programmation du festival. Un festival qui se déroule du 21 octobre au 1er novembre 2011. Info, contact, réservation au 08 92 68 03 42 ou sur cinéma-gardanne.fr. Sur la grenouille des fenêtres quotidiennes sur le festival du 24 octobre au 1er novembre, tous les matins à 9h45. Si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter cette émission et les chroniques qui suivront sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com.